Au réveil, la prison me saute à la gorge, comme un animal à l'affût de l'ultime cauchemar. Le premier sens en éveil m'avertit de sa présence tapie. Un coin de mur surgissant de l'aube, l'odeur du désinfectant, les ablutions diverses des congénères, l'effleurement de la couverture administrative et l'écœurement indicible. Elle me pénètre d'un trait. Elle me force avec la goulée d'air inspiré au bord de cette noyade lefto. Sa langue enfoncée dans la bouche, elle me baisse de sa mort journalière. Sans fleurs ni couronne au tréfonds des caveaux de béton, du « je ne le ferai plus » et des lâchetés misérables. Souveraine tyrannique, la mal à mort de la lèpre moderne et carcérale est là et déjà en moi. Et pas moyen de lui échapper. Jusqu'au plus lointain du dernier exil, j'éprouverai cette nausée. On ne s'habitue jamais à la prison. Jean-Marc Crouyant, Je hais les matins.
Monsieur a des fourmis dans les jambes. Monsieur rêve de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Avec ce soir, donc bienvenue sur ND Chaîne pour un lundi de plus. En petite équipe, je me sens si seul. Des chaînes, donc on va commencer avec les petites brèves comme d'habitude. Donc j'ai lu donc sur le générique ce que disait un petit texte de Jean-Marc Crouyant, Je hais les matins, pour passer la petite annonce que donc sa demande de semi-liberté a été acceptée, même si malheureusement le parquet a fait appel de suite, un peu comme d'habitude, mais il y aurait de fortes chances de le voir sortir, en tout cas temporairement, d'ici pas longtemps. Voilà, et c'était pour la petite brève. Et sinon, en ce qui concerne plus particulièrement Marseille, eh ben, une maison s'est ouverte à Marseille, au 14 rue Bénédicte, qui s'appelle Les Chrysalides. Et alors, je vais vous lire le petit tract qui a été écrit en commun par rapport au sens de cette ouverture. Et qu'est-ce qu'il est censé s'y passer? À Marseille comme ailleurs, des bâtiments vides et des places publiques sont investis pour informer, résister et créer d'autres modes de vie alternatifs. Nous avons choisi d'occuper cette maison pour nous organiser et lutter contre la loi LOPSI 2, où le système D et nos choix de vie deviennent des délits. L'État excite le sentiment d'insécurité et multiplie les mesures répressives pour mieux nous diviser et ainsi mieux nous manipuler. L'OPSI 2, qui naît la 42e loi sécuritaire depuis 2002, rien que ça, adoptée en 2011, criminalise toute forme de vie qui ne serait pas rentable. Alors l'OPSI 2, c'est le fichage généralisé, vidéosurveillance multipliée, pénalisation des petits métiers de la rue, filtrage et espionnage du web et nos ordi, immunité totale pour les agents de renseignement. Et ainsi de suite, toute une série de lois qui sont liberticides et qui vont faire que boucler la boucle de tout ce qui se passe depuis des années ici. L'objectif n'est pas seulement de s'opposer à une loi, mais d'expérimenter l'auto-organisation, construire une résistance collective sur le long terme. Pour mieux nous atomiser, le pouvoir a choisi la précarisation de la société et l'appauvrissement social et intellectuel général. L'État cherche à rendre plus performant le contrôle de la population en imposant comme objectif et rythme de vie le travail et la consommation. Alors, tous ceux qui sont intéressés sont invités, toute personne qui veut s'organiser au-delà des cadres syndicalistes et des partis politiques, toute personne ayant des idées, des techniques, des stratégies, des pratiques à partager, ou toute personne curieuse de découvrir un tel espace. Nous appelons à la convergence des luttes dans ce lieu ouvert à toutes les personnes qui veulent s'organiser sans chef ni porte-parole. Sans chef ni porte-parole. S'organiser, se rassembler, gueuler, diffuser, informer, lutter, résister, agir, créer. Donc voilà, cette maison, elle se situe au 14 rue Bénédicte, c'est pas très très loin de la Friche, c'est la rue qui part de la Friche et qui monte vers le Palais Longchamp, voilà, au 14, la Chrysalide, de toute façon on ne peut que la voir parce qu'il y a des banderoles. Et voilà, donc on vous en reparlera sûrement dans les semaines à venir, parce qu'on espère qu'il s'y passera beaucoup de choses. Voilà. Et après, on va vous passer une petite musique, et après la petite musique, en fait, par rapport à l'émission qu'on a fait la semaine dernière, donc... qui était l'enregistrement du débat qui s'était passé à Lyon avec Laurent Jacquat, qui parlait beaucoup de la solidarité et quelle lutte anticarcérale, le lien entre l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Et ben cette fois-ci, on va vous passer un montage en quatre parties. qui est issu d'un enregistrement qui s'est passé l'année dernière au moment de la semaine contre les longues peines, l'abolition des longues peines, un peu partout en France. Il y avait d'ailleurs des événements qui s'étaient passés à Marseille. Et là, c'était un entretien donc avec Christian Soulier, qui nous parle donc de la lutte anticarcérale des années 70, du début des années 70 à 1980, et qui nous explique un peu toute l'histoire des CAP, donc des commissions d'action prisonnier, collectifs d'action prisonnier, dont on vous a déjà parlé à radio sur une des chaînes. Voilà, je m'embrouille, on va vous passer une petite musique et après on passera à la première partie de ce montage qui est un peu un petit recadrage historique de qu'est-ce qui se passe au début des années 70. Voilà. Vous êtes bien donc sur N des chaînes, c'était le morceau de OTH, Quand on a que la haine, qui est donc une reprise, si j'ai bien compris, d'un poème de Rimbaud. C'est ça, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Et du coup, ben voilà, on va vous envoyer la première partie sur donc cet enregistrement de Christian Soulier là, pendant le cadre de la semaine contre les longues peines, et qui nous parle un peu du tout, de la naissance du mouvement abolitionniste sur les prisons, dans le contexte de la fin des années 60 et début des années 70. Voilà, alors bonne écoute et puis on se retrouve dans pas longtemps sur N2Chain.
Je vais aborder, c'est plutôt la question de l'abolition de la prison, qui effectivement contient la question de l'abolition des longues peines, de fait. Et cette question de l'abolition de la prison portée par un mouvement de prisonniers, dans les années 70, qui a construit cette question par des actions, par des réflexions et surtout par un journal. Donc c'est à la fois l'histoire d'un mouvement et d'un journal qui a traversé quasiment toute la décennie, une bonne partie de la décennie 70, à une époque où je trouve que le débat sur la prison a été posé d'une certaine manière avec une grande qualité et qui fait toujours sens aujourd'hui à questionner, de 1972 à 1980. Mais dans les années 70, ce que je trouve original et intéressant par rapport à la période actuelle, c'est que des prisonniers ont pris la parole collectivement et à partir de leur parole, ils ont tiré des conclusions politiques, une analyse de la prison de leur point de vue, à partir de ce qu'ils vivaient. Et ils ont conquis à partir de là une place dans l'espace public, donc ils ont construit un débat par d'eux-mêmes, donc c'est pas le débat partait d'eux. Et je pense que là aussi, c'est un renversement assez fondamental par rapport à ce qui se passe en principe. Et à partir de cette expérience, ils ont à la fois articulé des revendications immédiates autour de la question de ce qu'ils vivaient concrètement, donc des améliorations, soit juridiques, je prends par exemple l'abolition de la contrainte par corps ou l'abolition de l'interdiction de séjour, et aussi des côtés pratiques sur le droit à la lecture, le droit à l'information, aux rencontres, qui pouvaient. Et ces revendications étaient l'expression des révoltes qui ont traversé les prisons au tout début des années 70. Et l'autre originalité de ce mouvement, c'est d'avoir une plateforme de 12 points. 11 points, ce sont des revendications concrètes, satisfaisables quasiment, je dirais, immédiatement. Et le 12e point, c'est l'abolition de la prison, qui évidemment, lui, ça donne une autre perspective. Mais évidemment, ça ne joue pas le même rôle, mais ça ancre le mouvement dans une certaine dynamique et une perspective qui lui évite d'être intégré et récupéré et être finalement un simple mouvement de réforme de la prison. Sachant que l'action du CAP aussi débouche sur des réformes de la prison. Mais il ne se contente pas de ça. Donc, ce qui leur a permis de participer au débat, donc là je suis toujours pour situer à peu près le problème, effectivement, on est après mai 68, il y a une critique des institutions, et il y a des mouvements qui sont confrontés à l'appareil judiciaire, avec des militants qui se retrouvent en prison, et donc notamment de la mouvance dite maoïste, la gauche prolétarienne. À partir de là, ils se constituent un collectif de soutien à ces militants. Mais très vite, ce collectif se transforme en autre chose, en un groupe d'information sur les prisons, qui ne prend plus la question du prisonnier politique, mais la question de la prison, autour d'intellectuels comme Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, et puis les gens de la revue Esprit, Jean-Marie Domenach, Paul Thibault. Et donc là, on a quelque chose aussi de déjà original qui se construit et qui débouche aussi sur le CAP, c'est-à-dire qui ouvre l'espace, notamment l'accès aux médias. Se dire ancien prisonnier et vouloir avoir accès au monde, ça ferait rigoler, je veux dire. Dans ce contexte, on voit quand même des gens qui posent la critique de la prison à la une du monde. Ça débouche aussi là-dessus. J'ai travaillé sur cette période, donc j'ai vu l'évolution aussi d'un journal qui était un journal très institutionnel, qui est le journal L'émanation de la République, voulu par De Gaulle, La Voix de la France, Le Monde. Et le Monde est porteur de ces débats aussi. En 80, j'ai milité sur la question de la prison et j'ai appartenu à un mouvement qui s'appelait le Réseau Défense Libre, ou qui était animé par des anciens du Comité d'action des prisonniers. Donc, à partir de là, j'ai eu accès aux archives, j'ai eu accès aux témoignages, j'ai eu accès à des gens. Et cette histoire m'a semblé très intéressante à écrire, Et à la construire autour de l'idée d'un organe d'information, du journal. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un journal, que c'était un mouvement, mais que le journal et le mouvement étaient indissociables. Et il y a une certaine dialectique qui se passe à ce niveau. La genèse du CAP, d'où ça vient ? Donc CAP, Comité d'action des prisonniers, et puis le nom du journal, le CAP. Et le CAP, c'est l'abolition de la prison, on peut tout à fait imaginer le jeu. Donc des révoltes de prisonniers, il y en a dans les années, au début des années 70. On peut supposer que les révoltes des prisonniers, il y en a toujours eu. Je veux dire, c'est pas nouveau. Imaginez la situation des gens qui sont enfermés contre leur gré. Forcément, qu'à un moment donné, ça pète, ça craque et il y a des révoltes. Et là, on a quand même un groupe qui prend la parole collectivement. Et ça, je pense que par contre, c'est nouveau, qui porte une critique sociale beaucoup plus large. Il y a vraiment des choses qui se mettent en œuvre et qui construisent vraiment une autre perspective. Et c'est lié à ce contexte. Donc, le point de départ, pour moi, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, sur la lutte des prisonniers maoïstes. Donc, au début des années 70... Donc la gauche prolétarienne est un mouvement issu d'après 68 qui fait feu de tout bois à un moment donné, qui fait des actions et qui en amène un certain nombre en prison. Peut-être 100, 200 personnes qui sont en tôle à ce moment-là. Le mouvement se pose la question de les soutenir. Ils veulent un statut politique et ça c'est une des questions importantes. Donc ça part, cette lutte des prisonniers maoïstes avec des grèves de la faim, de la revendication d'un statut politique. Le statut politique en France n'existe pas. Il y avait le FLN algérien qui avait obtenu un régime spécial, qui avait mené des luttes dans les années, donc au début des années 60, je pense. Et en tout cas, il y avait eu des luttes collectives au niveau du FLN. Donc là, les Mao reprennent un peu la même dynamique, avec des comités de soutien, un mouvement qui s'est recréé, qui avait déjà existé, qui s'appelle le Secours Rouge, et qui anime des comités contre la répression. Et puis des intellectuels qui au départ sont conçus pour être l'amplificateur de cette revendication, donc Foucault, Deleuze, Villeneuve, et puis les gens de la revue Esprit aussi. Et là, ces gens-là, ils n'ont pas envie d'être un simple relais de la gauche prolétarienne, et c'est là que tout d'un coup ils posent une autre question. On peut dire que là, Michel Foucault joue un rôle fondamental. Tout d'un coup, il déborde donc les Mao, et il lance un dispositif, ils mettent en place un dispositif, le GIP, le groupe Information Prison, qui met en place des systèmes d'enquête collective. Les enquêteurs, les enquêtés sont quasiment les mêmes, en tout cas on est dans un dispositif où il n'y a pas des enquêteurs et des enquêtés, et où on pose la question de l'intolérable, donc ça s'appelle des enquêtes intolérance. Parce que effectivement, les prisonniers maoïstes ont constaté les conditions de détention, et ils en ont fait part à leurs camarades, etc. Donc ça a circulé, il arrive des témoignages, et le GIP monte ce dispositif, ils vont aux portes des prisons, ils distribuent les enquêtes, et il y a des questionnaires qui reviennent, les gens les dépouillent, ça constitue une dynamique. Autour des conditions de vie épouvantables des prisons françaises en ce début des années 70. Là, on est donc dans un dispositif qui est assez nouveau, et puis qui remet donc en cause même le système avec des détenteurs de savoir d'un côté, puis ceux qui sont là. Donc là aussi, ça bouscule les représentations habituelles, même dans le champ du savoir. Qu'il n'y a pas que ceux qui analysent et puis d'un côté, et puis ceux qui reçoivent l'analyse de l'autre. Donc là aussi, on est dans une rupture profonde. Le GIP a un rôle déterminant dans l'émergence du CAP. Tout ça, ça contribue à créer une situation qui rend possible le CAP. Le GIP est lié aussi à un contexte carcéral du début des années 70 qui est bien particulier et qui est marqué donc par ces révoltes dont j'ai parlé. Donc des grandes révoltes de prison. Alors il y avait une grande révolte de prison en 67 à la Santé, mais qui n'avait pas débouché sur un mouvement. Là, on est quand même, il y a eu 68 entre 67 et 70, 71. Et donc, la donne a changé. Et la prison, donc, est contestée de l'extérieur par des groupes comme le GIP et de l'intérieur par les prisonniers eux-mêmes. Elle est contestée à la fois dans son fonctionnement et elle est contestée également dans sa finalité, dans sa place dans les dispositifs de pouvoir. Donc, c'est une contestation qui va relativement loin et qui remet même en cause la manière de fonctionner de l'ensemble du système social. Donc, au début de la décennie 70, ce sont les conditions matérielles de la détention qui sont mises sur la place publique. Moi, en 71, c'est la révolte de Toul. Les révoltes se focalisent contre l'arbitraire du système pénitentiaire. Les zones de non-droit, ça c'est quelque chose qui revient. Jean-Marie Domenach, la rue Esprit, il dit les prisonniers rentrent dans le droit en revendiquant des droits. Donc c'est pour lui un signe de réinsertion. Et lui, c'est la tendance vraiment très réformiste. Hein. Et puis, autour de la négation de la personnalité. Il y a des choses très graves qui se passent à ce moment-là. Et donc, j'en arrive à la révolte de la centrale de Toul. Donc, c'est en novembre-décembre 71. Elle est consécutive d'une mesure vraiment dégueulasse prise par le ministre de la Justice de l'époque, le garde des Sceaux, René Pleven. Pleven, suite à une histoire grave à Clairvaux, décide de supprimer les colis de Noël. Quand on sait ce que les colis de Noël représentent, bon, on imagine ce que ça peut déclencher. Ce qui s'est passé à Clairvaux avant, c'est l'affaire Buffet et Bontemps. Donc ce sont deux détenus qui ont pris en otage une infirmière et un gardien, et puis ça s'est mal passé, ils les ont tués. Tout de suite, la presse se focalise, comme ça fait maintenant, juste sur l'émotion. Il y a deux personnes assassinées par des tolards, donc il faut faire quelque chose, quoi. Donc la mesure, c'est la suppression des colis de Noël qui suit consécutive de ça. Mais à un moment donné, c'est dans Le Monde, c'est un ancien juge d'application des peines qui témoigne et qui rapporte des faits qui se sont passés à Clairvaux avant et qui ont créé un climat bien particulier dans la centrale. Et notamment, il y avait un groupe de prisonniers, une dizaine, qui avaient voulu s'évader en creusant un tunnel. Ils ont été détectés et au lieu simplement de les arrêter, les gardiens ont inondé le tunnel pour les sortir à moitié noyés et les ont tabassés publiquement dans la cour des promenades. Et le juge d'application des peines de l'époque dit que là, il y a un climat de haine qui a été semé à Clairvaux ce jour-là et qui laissera des traces. Et ça, c'est un rapport qui a été fait avant l'affaire Buffet-Bontemps. Le Monde ressort ce rapport après. Et effectivement, tout d'un coup, ça donne un autre éclairage. L'affaire Buffet-Bontemps, bon, ils ont tué une infirmière à Maton, mais il y avait un climat qui était antérieur à ça. Et là, tout d'un coup, la campagne s'arrête autour du sécuritaire. Il y a des gens qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Là, évidemment, la question des traitements dégradants et du mépris est posée. La révolte de Toul éclate. Et on retrouve la même question. C'est-à-dire que là, on a un directeur, Belgaliana, qui est un type qui se permet d'attacher les détenus avec des ceintures de contention et les laisser, les détenus punis, de les laisser attacher comme ça. C'est un type qui est vicieux ou quasiment pervers. La révolte éclate dans un premier temps. Après, pour faire rentrer les choses dans l'ordre, il y a des promesses qui sont faites, qui ne sont pas tenues. Et donc, une semaine après, la révolte redémarre. Donc là, c'est les fameuses images caractéristiques des prisons où les prisonniers sont sur les toits et proclament leurs revendications. Mais là, c'est contre Galliana, on est sur simplement le respect de la personne humaine, quoi. On est dans cette dimension. Toul, en plus, c'est une prison de jeunes détenus plutôt, hein. La répression est féroce. Le docteur Rose, psychiatre de la prison, dénonce ce qui se passe à Toul. Elle est quasiment attaquée par la hiérarchie. L'aumônier, pareil, de la prison. Et donc le GIP, qui à l'époque c'est le GIP, fait un comité vérité-justice et fait une enquête. Et il y a un livre qui sort après, La révolte de la centrale née à Toul, et qui met en cause vraiment la personnalité du directeur. Donc on voit que dans un système comme la prison, un directeur qui est un peu fêlé peut jouer un rôle déterminant. Les détenus de Toul sont transférés à la prison de Nancy, et en janvier, c'est la prison de Nancy qui se soulève. Donc là, on a une série de révoltes. En quelques mois, il y a énormément de prisons qui se soulèvent. Donc les centrales de Melun, la prison Saint-Paul à Lyon, c'est dans cette période. Je veux dire, ça, ils transfèrent les révoltés aussi, donc bon, ça diffuse de fait la révolte. Très vite, il y a des cahiers de revendications qui arrivent à la presse, et notamment à la revue Esprit. Esprit, on a vu les animateurs, c'est une revue catholique, personnaliste, un courant chrétien. On a vu les gens qui animent Esprit sont dans le GIP. Et donc, il publie intégralement in extenso les plateformes de revendication. Donc là, il commence à exister quelque chose, quoi, qui se construit autour de revendications précises, on est, qui concernent la vie quotidienne, qui concernent les conditions de vie, qui concernent les conditions de travail. À l'époque, il y a encore les cages à poules. Donc, il y a les revendications de suppression des cages à poules qui figurent dans les cahiers revendicatifs. La presse relaye, donc il y a Esprit, mais il y a le journal Le Monde. Alors, Le Monde, c'est le directeur, c'est Hubert Beuve-Méry. Lui, il a des liens directs avec les gens du GIP via ce qu'on appelait l'école d'Uriage pendant la guerre. L'école d'Uriage, pour résumer, qui forme les cadres des chantiers de jeunesse de Vichy et qui bascule dans la résistance. Ça crée un milieu. Et on retrouve donc des gens qui sont après, il y a Beuve-Méry, il y a Domenach, on retrouve les gens d'Esprit, on retrouve des gens... Donc là, ça crée aussi des gens qui sont sur des plateformes assez réformistes, qu'on peut retrouver dans le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui sont pour un traitement humain, qui remettent pas en cause fondamentalement la prison, mais qui ont envie de poser le débat. Donc ça joue un rôle aussi important. Là, on a un climat, et on a surtout des prisonniers qui commencent à se concerter pour lister des revendications concrètes, qui sont négociables, discutables. Donc on est dans un cadre vraiment d'une lutte relativement politique. Donc l'attitude du pouvoir reste très ferme, c'est la répression. Ce sont des condamnations, des transferts. Donc c'est la méthode habituelle. Donc c'est là que le cap va directement émerger dans ce contexte en 1972 autour de prisonniers qui sortent de la prison de Melun, la centrale de Melun. Et la centrale de Melun a mené des luttes qui sont également très significatives. C'est l'imprimerie pénitentiaire. Ils se sont servis de l'imprimerie pour faire des affiches, distribuer des tracts dans la prison. Et là aussi il y a les plateformes. Et là on est devant des gens qui ont été stratèges, qui n'ont pas fait n'importe quoi, qui ont appris aussi à se battre. Et c'est eux qui lancent le comité d'action des prisonniers, avec au départ des gens comme Michel Foucault, qui figure dans l'Ours du journal pendant les premiers numéros, et Daniel Defer, qui était le compagnon de Michel Foucault et qu'on a retrouvé dans l'organisation Aide par rapport au SIDA.
Donc voilà, c'était un peu la première partie de son débat qui exposait un peu ce qui se passait au début, donc contexte des débuts des 70, quoi, et quelle lutte allait être menée. Et en attendant, on va faire une petite pause donc musicale avec Stupéflip et donc À bas la hiérarchie pour passer à la seconde partie qui parle plus de ce qui s'est passé à partir de 74, donc la mort de Pompidou, voyez-vous, et l'élection de Giscard. Et par rapport notamment à une idée qui est intéressante et qui était peu abordée, mais par rapport à l'identité de classe, conscience de classe, et quel lien il pouvait se faire sur ces bases-là entre des militants qui étaient incarcérés, donc des militants politiques qui étaient incarcérés, et par rapport aux révoltes des années 70, et le lien avec ce qui se passait aussi dans la tôle et quel rôle social joue la prison dans notre société. Voilà. Un de chien.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure.
Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, l'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre.
À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. C'est ça, boss, boss, boss. Coco, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se bat, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 tombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse. Mais tu continues, parce qu'il faut de la caillasse. C'est le fils
société fonctionne comme ça. Hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfoncer par tout l'heure.
Ben, je les enfoncerai jusqu'à ce que j'en crève. Et comme Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Et même si la chanson est belle, sert à rien. Moi, ça te fera du bien de gueuler ce refrain. Ah ben, la hiérarchie. La hiérarchie. Ah ben, la hiérarchie. La hiérarchie. Ah ben, la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie. Et pour tous ceux qui ont les mains moites. Ah ben, la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les coins. La hiérarchie.
Ouais, donc c'était donc un morceau de Stupéflip à bas la hiérarchie, et donc on va passer à la deuxième partie de ce montage, donc comme je vous disais, qui part un peu de 1974 avec alors, donc, la mort de Pompidou, comme je vous l'ai dit, élection de Giscard, et notamment 74, et ben des émeutes dans beaucoup de centrales par rapport à la lutte contre les QHS, dont on a déjà parlé bien entendu dans cette émission plusieurs fois. Et donc quelle stratégie a mis en place donc le CAP avec le, donc le GIP, tout ce qu'on vous parlait dans la première partie, pour essayer, pas d'entretenir, mais de partir sur un lien de conscience de classe et d'identité de classe entre, par rapport au rôle que joue notamment la prison, et que fatalement en prison, il y a c'est beaucoup de pauvres et d'ouvriers, bien entendu, et notamment quelles actions, quelles manifs ils ont mis en place pour lutter donc, contre le mitard, donc, tout ce qu'ils disent, qui sont des revendications du maintenant, par rapport aux conditions de détention, et aussi pour l'abolition de la prison, bien entendu, et aussi de la peine de mort, parce qu'on vous le rappelle qu'à cette époque, il y avait bien entendu la peine de mort. Voilà, donc on vous laisse écouter cette deuxième partie pour reprendre le micro après. Edition.
Je me sens tout seul. En 1974, toujours le contexte, on a Pompidou qui est mort, et il y a les élections présidentielles, et il y a Giscard d'Estaing qui est élu et qui arrive sur des bases très réformatrices, en tout cas qui se... On est quand même pas loin après 68, donc il y a une attente de changement dans les prisons. On pense que le pouvoir va peut-être discuter et négocier, et d'ailleurs Giscard va serrer la main à un prisonnier à la prison Saint-Paul à Lyon. Donc c'est un signe, et il crée un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire. Dans le même temps, c'est l'été 74, il y a une déception parce que ça ne bouge pas, et ce sont il y a toute une série de révoltes qui reprennent en 74, ce qu'on appelle le mai 68 des prisons, où là, les révoltes sont réprimées très violemment, puisqu'il y a un certain nombre de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a des prisons entièrement détruites. Donc, comme la centrale d'Aix dans le Lot-et-Garonne, il y a Clairvaux. Donc, les revendications, je les liste, ce sont autour de la question des salaires par rapport au travail pénal, des meilleures conditions de détention et la mise en cause des procédures judiciaires. Et ceux qui finalement essayent de récupérer les révoltes de leur point de vue, ce sont les syndicats de surveillants, qui eux, effectivement, vont avancer la question de la parité avec la police. La question pénale est largement sortie de la prison à ce moment-là, et elle est posée vraiment dans l'opinion, elle est posée face à l'État. Et surtout, ces révoltes signifient l'échec de la réforme de 45. La réforme de 45, c'est une réforme donc qui a été menée par un magistrat qui s'appelait Amor, donc on dit la réforme Amor, et qui était une réforme très très humaniste, qui se voulait humaniste autour de la question de la prison, qui avait introduit le régime progressif. On introduit un trajet où petit à petit on va avoir plus de droits. Bon, mais cette réforme Amor, elle ne voit pas vraiment de mise en application. Et ces révoltes aussi révèlent le décalage entre les conditions de vie à cette époque-là, à l'extérieur, et les conditions de vie en prison. Et le décalage est tellement gros que ça ne tient pas. Donc ces révoltes, elles débouchent sur la réforme de 1975, qui est menée par un ministre qui s'appelle Le Canuet, qui est un centriste. La réforme de 1975, comment dirais-je, elle est vicieuse ou ambiguë. En tout cas, d'un côté, elle introduit une libéralisation de certains régimes, mais elle endurcit d'autres. Donc on est dans deux logiques contradictoires. Elle introduit vraiment trois régimes de détention au niveau des condamnés, les quartiers de sécurité renforcés, les maisons centrales et les centres de détention. La sécurité quand même se retrouve placée au cœur du dispositif. C'est la question, on n'est plus dans la question du reclassement qui était porté par la réforme Amor, on glisse plus vers la question du sécuritaire à ce moment-là. Parce que, évidemment, entre le QSR, la maison centrale et le centre de détention, les conditions de détention du fait des règlements et des systèmes ne sont pas du tout les mêmes. Elle aboutit aussi, à mon avis, à la fin des révoltes collectives de cette période-là. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire gère la population pénale avec ce système. Et donc, les révoltes collectives sont beaucoup plus difficiles. Mais par contre, on voit émerger des révoltes beaucoup plus restreintes, mais à partir des lieux où se passent les situations les plus inhumaines, donc les quartiers de sécurité renforcés ou les quartiers d'haute sécurité, ce qu'on appelait les QHS, et qui sont portés par des gens qui ont été très médiatisés, comme Mesrine, Taleb Adjadj, Daniel Debriel, Roland Agré ou Roger Knobel Peace. Et avec ce système, c'est la question de la dangerosité, et avec les révoltes qui se passent à l'intérieur de ce système, c'est la question de la dangerosité qui est mise au cœur. Mais il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est celle de l'égalité. C'est-à-dire que des personnes sont condamnées à des peines de prison, mais cette peine n'est pas la même selon le lieu dans lequel on l'exécute. C'est-à-dire que la temporalité, là, on peut l'interroger. Mais quand on est dans un système comme un QHS, c'est pas le même que dans un système comme le centre de détention. Voilà pour le contexte. La population pénale, vous savez que maintenant, on est dans un va-et-vient entre 60 et 65 000, je crois. On est dans cette fourchette-là. À l'époque, en 1970, il y a 29 000 détenus. Et en 1980, il y en a 35 000. Et là, on dit, tiens, le système, il craque. Hein. Et là où c'est important, parce que c'est autour de cette dimension-là que le CAP, le Comité d'action des prisonniers, s'est construit, autour d'une identité de classe. Et c'est ce qui était un point de vue pour se construire une identité et agir dans le domaine politique. Bon, si on veut faire le lien avec maintenant, je vous conseille de lire les ouvrages de Roland Pfefferkorn et Alain Beer sur les inégalités. Il y a tout un chapitre sur les inégalités judiciaires. À partir des comparutions immédiates, on voit que ça n'a pas changé, que les juges appartiennent plutôt à des classes favorisées et bourgeoises, et qui jugent sans trop comprendre d'autres gens, et qui les envoient beaucoup plus facilement en prison quand ils n'ont pas des garanties de représentation qu'ils estiment nécessaires. Le CAP se construit comme un acteur principal de la contestation de la prison à partir de 72. Certainement, il n'y a pas de carte d'adhérent, donc je n'ai pas pu voir. Je pense que c'est relativement réduit. Mais par contre, la capacité à construire un problème et à faire bouger le système est quand même très forte. Ça s'appuie quand même sur une situation, un contexte qui bouge. Ils font beaucoup d'actions très très provocatrices pour déclencher des réactions. Et là, par exemple, on a Serge Livrosé qui assiste à un procès en Alsace, je crois, et qui crie pourriture de justice. Bon, évidemment, il est arrêté, il est condamné. Et à partir de ça, il y a tout un débat là-dessus qui arrive dans le journal, dans le Monde, où tout ça relaye ça. Et donc du coup, ça fait parler des problèmes autour de l'institution judiciaire. Le CAP organise des manifs aussi, contre le mitard, contre la peine de mort, contre les prisons de force. Alors ça correspond à des moments très particuliers. La manif contre le mitard, c'est après la mort mystérieuse d'un jeune Antillais à Fleury-Mérogis qui s'appelle Patrick Mirval. Donc ça pose vraiment la question du mitard, de l'arbitraire et tout ça. la peine de mort existait encore et ça devient aussi un objectif. Donc il y a un courant abolitionniste qui n'était pas propre qu'au CAP, il y avait d'autres gens, mais là aussi. Et la prison de force, c'est ce qui préfigure les QHS. Donc c'est la prison de Mende, en Lozère, où en 1975, toujours à partir de témoignages internes, hein, ça se fait toujours dans ce va-et-vient, le CAP organise une manif à Mende. Avec des bus qu'ils amènent, et donc ils vont jusqu'à la prison avec des mégaphones s'adresser aux prisonniers et tout ça. Et là aussi, ce sont des manifs très, très médiatisés qui font du bruit et qui posent la question de ces prisons spéciales qui, loin d'être supprimées, vont au contraire se multiplier dans cette période-là. Le CAP est également très présent devant les prisons. Alors là, c'était une bataille. C'est la conquête des trottoirs des prisons, moi j'appelle ça. Évidemment, un journal qui s'adresse à des prisonniers va essayer ne peut pas rentrer en prison du fait du blocage, puisque il y a un système de contrôle et de filtre qui fait que ce qui conteste la prison ne peut pas y rentrer. Par contre, ils vont devant les prisons s'adresser aux familles. Dans un premier temps, ils se font emballer par les flics. C'est un enjeu. Et donc, ils mettent la pression sur les prisons parisiennes, donc la santé, Fleury, Fresnes. Et là, il y a toute une dynamique qui se passe. Par exemple, il y a 15 personnes un samedi. Le samedi suivant, il y en a 30. Le samedi suivant, il y en a 50, etc. Au fur et à mesure qu'ils se font emballer, il y en a plus qui arrivent. Il y a des lycéens qui se joignent à eux. Il y a d'autres gens qui se joignent à eux. Autour de la liberté d'informer et du droit à l'information. Et Le Monde, toujours Le Monde, fait plancher un grand juriste qui fait une page entière dans Le Monde où il analyse qu'effectivement... on n'a pas le droit d'arrêter les gens. Il y a des conditions légales qui font que les gens peuvent vendre le journal comme ça. Du coup, les interpellations s'arrêtent. Prend la même chose au palais de justice de Paris. Donc pareil, et puis rebelote, et puis conquête du lieu. Ça crée une dynamique très forte. Et après, ils vont essayer de rentrer en prison. Donc là, ça se passe après la réforme de 75, où théoriquement, la presse peut rentrer en prison. À condition qu'elle ne menace pas l'ordre public, l'ordre interne. Je crois que c'est après qu'il y a un amendement là-dessus qui passe. Oui. Dans un premier temps, c'est même pas. Il faut que le journal n'ait pas été saisi dans plusieurs mois qui précèdent. Les grands directeurs, la santé et compagnie, ils ne veulent pas que le CAP rentre. Donc ils s'y opposent. Et il y a toute une bataille qui se mène. Les intellectuels se mobilisent. Foucault, Claude Mauriac, le fils de François Mauriac. On retrouve les intellectuels autour du GIP. Il n'y a aucune raison. Le journal n'est pas saisi, alors qu'il est déposé, il est diffusé en kiosque, il est diffusé par la MEP. Mais c'est la résistance interne de la pénitentiaire qui l'empêche de rentrer, au mépris de la légalité. Perfitte, après, qui est ministre de la Justice, promet que le CAP va rentrer, mais finalement il cède à ce qu'on appelle le lobby pénitentiaire, et au contraire, il fait pondre un décret qui donne un outil pour interdire l'entrée du CAP. Outil très vague, d'ailleurs, qui est justement cette fameuse menace de la sécurité intérieure du... Et les autres grandes campagnes qui sont menées, c'est contre l'interdiction de séjour, contre la contrainte par corps, contre la détention provisoire, contre les QHS. Donc chaque campagne est menée à partir de cas précis, très construits, et qui donne vraiment du sens. On n'est pas dans l'abstraction. Donc vous savez la contrainte par corps, ce que c'est? C'est la prison pour dette. Donc c'est une peine administrative qui était prononcée par le percepteur, je crois, en tout cas par le fisc, avec un barème, tant de fric, tant de dettes, ça se transforme en tant de mois de prison. Je crois que les choses ont été un peu modifiées là-dessus. Moi je donne un exemple, pour 2400 francs à l'époque, on m'a filé 4 mois de contrainte, donc ça donne où on n'a pas de remise de peine, c'est une peine qui tombe, que les flics amènent à la fin, au moment où on va être libéré. Donc on a vraiment le couteau sous la gorge. Et bon, moi j'ai trouvé des amis qui ont rassemblé l'argent, qui ont payé, et je suis sorti, quoi. Sinon je faisais 4 mois de plus. Donc la détention provisoire, vous connaissez. L'interdiction de séjour, c'est, on appelle ça la trique. Les détenus, un tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour. Donc un grand nombre de départements vont être interdits pour le séjour de la personne. Pour les flics, c'est un moyen de recruter des indics. Parce que pour habiter à l'endroit où on a envie d'habiter, si on y interdit de séjour, eh ben, faut être un peu coopératif, que c'est un moyen de pression. Et puis, ils font aussi beaucoup d'interventions dans des débats, d'invités dans des usines en grève ou dans des lieux comme ça. Et la particularité de ces interventions, à chaque fois, c'est quand même d'être assumé par des gens qui se disent anciens détenus. Et qui souvent s'appellent les ouvriers détenus, d'ailleurs, qui se donnent autour d'une conscience de classe. Et cette conscience de classe permet d'inverser le stigmate, justement, et de dire, finalement, on est en tôle, mais il y a des conditions économiques et sociales qui font qu'on est en tôle, et donc c'est à partir de là qu'on se construit, et ça délégitime, d'une certaine manière, la prison. Et il y a des, par exemple, dans La Cause du Peuple, le journal de la gauche prolétarienne, on voit des tracts et des textes signés les ouvriers détenus de la centrale de Melun. Et le CAP s'adresse donc, par le biais de la presse gauchiste, aux ouvriers pour leur dire qu'ils sont des leurs. Et il s'adresse également aux détenus pour dire aux détenus que les ouvriers sont aussi des leurs. Donc, pour eux, le prisonnier doit réintégrer le combat de la classe ouvrière tout en se déculpabilisant. Donc voilà, ça c'est le discours de base du CAP au départ. C'est la misère et l'exploitation qui ont amené quelqu'un à voler. Ce sont donc elles qui sont coupables, ce sont elles qui doivent combattre aux côtés des autres ouvriers, mais ceux-ci doivent aussi reconnaître que les tôlards sont des leurs. Et là, on a deux obstacles qui sont constatés dans le journal, que la mentalité du tôlard moyen n'est pas prête à se mettre en phase avec la lutte de classe, avec le combat de la classe ouvrière, et que du côté des syndicats, par exemple, et ouvriers, il n'y a pas non plus d'écoute de ces revendications-là. Donc on peut dire que cette parole reste cantonnée à la marge du mouvement ouvrier, je dirais les courants anarchistes, trotskistes, maoïstes de l'époque. Et en 76, le mouvement, il y a un débat interne, mais qui est dans la colonne du journal, et le mouvement tire un constat d'échec de sa stratégie. La stratégie étant, donc on réintègre le combat de la classe ouvrière autour d'un mouvement de masse. Et ça, en 76, en fait, ça n'a pas marché. Cette conscience de classe, je pense, a été fondamentale pour s'assumer politiquement et pour essayer d'établir des contacts avec les surveillants sur des bases de classe. Parce que ça aussi, ça va vous sembler bizarre, mais le CAP a essayé aussi de faire un travail politique avec les surveillants. Ça a marché avec certains, quoi, il y avait des débuts, mais les syndicats de surveillants majoritaires de l'époque n'en voulaient pas. Ils ont tout fait pour casser ce truc-là. Et moi, je l'ai constaté. Donc, moi, j'étais pas au CAP, hein, mais j'ai vu des gens du CAP qui étaient dans la prison où j'étais, hein, où j'ai passé 2 ans. Il y avait une capacité à discuter et à prendre les gardiens sur leurs contradictions autour de cette conscience de classe qui était quand même, moi, qui m'avait étonné, qui m'a surpris aussi. Alors, après, c'est marrant parce que la CGT de l'époque pénitentiaire est horrible. Hein. CGTF et FO, ce sont les deux syndicats qui sont majoritaires. Et la CGT pénitentiaire est pour la peine de mort. Ils appellent à voter Giscard. C'est pas un syndicat CGT classique. Si bien que la Confédération le dissout au début des années 80. Et il se recrée un nouveau syndicat CGT après et qui, lui, va reprendre l'analyse de classe autour de la prison. Donc la conscience de classe a été importante pour créer aussi, pour aller vers d'autres milieux, pour circuler, pour s'affirmer donc en tant qu'ancien tôlard. Mais cette conscience de classe n'était pas aveugle et c'est aussi un autre point important par rapport au CAP. Ça nous remonte avec les Mao à l'affaire de Bruyères-en-Artois. Donc Bruyères-en-Artois, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est une ville où une jeune fille, une adolescente, a été assassinée. Et on accuse un notaire d'avoir commis le meurtre au climat de la mine. On est dans un affrontement de classe qui est quand même assez visible au niveau de l'habitat, du territoire, de plein de choses. Et les Mao s'engouffrent là-dedans, disent le notaire est coupable parce qu'il est notaire. Et ils montent des comités vérité-justice également. Et ils montent toute une campagne qui est animée par un Mao qui a fait une belle carrière après, qui s'appelle Serge Julie, et qui avait été envoyé là pour se ressourcer parce que on trouvait qu'il fréquentait trop les intellectuels. Donc la direction de la GP l'avait envoyé dans le Nord. Il y a un autre type qu'on retrouve au patronat maintenant, qui était un des animateurs de cette campagne, c'est François Ewald, et qui est un des théoriciens de la refondation sociale de Seyer et compagnie. Ces gens-là sont des dirigeants Mao à l'époque, dans cet endroit-là, et ils lancent une campagne. Moi, j'ai les numéros de la Cause du Peuple de l'époque, je trouve que c'est vraiment franchement du délire. Et là, le CAP dit non, c'est pas possible, c'est la rupture avec les Mao à ce moment-là. Et qui leur permet de vraiment, disons, ils auraient pu être instrumentalisés complètement par les Mao, qu'on aurait fait un mouvement de masse comme ils faisaient avec d'autres milieux, avec les travailleurs immigrés, avec les jeunes. Bon, on est dans un cadre classique où il y a un groupe politique qui instrumentalise des groupes plus larges pour les articuler sur leur lutte. Mais là, c'est cette affaire qui éclate au tout début, en 72, enfin, au moment de la naissance du CAP, permet aussi au CAP d'affirmer la prison pour personne, même pour le notable Bruyant Artois, et même s'il est coupable.
Endation. Donc voilà, on vient d'écouter la deuxième partie, donc vous disiez qu'il parle un peu de ce qui se passe à partir de 74, quel lien il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur, notamment par une certaine, qui pourrait être le biais d'une certaine conscience de classe, et surtout du rôle que joue socialement dans ce monde-là la prison, quoi. Et donc, comme tout à l'heure, on va repasser une petite musique pour passer à la troisième partie, qui elle est aussi assez intéressante parce qu'elle aborde surtout, donc c'est un mouvement, donc on parle beaucoup d'abolition, mais le CAP n'en est pas resté là, en tout cas dans plusieurs de ses sous-groupes, quoi, ses différentes manières de penser, pour justement élargir son discours à la société en général, donc, et l'enfermement qui peut se passer dans les orphelinats par exemple, comme ils en parlent après, ou dans les hôpitaux psychiatriques par rapport donc à la... et notamment la lutte des handicapés, voilà. Donc par rapport à d'autres luttes transversales et qui est un discours assez intéressant et qui nous parle ici, parce que comme on le dit souvent, certes il y a l'enfermement de la prison, mais qui est un des derniers maillons de la chaîne de l'enfermement, et qu'avant il se passe plein de choses pour nous dresser et pour nous faire obéir, mais on veut pas obéir. Alors on va balancer une petite musique.
I'm your governor, Pete Wilson, you know, the baddest governor to ever grab a mic and go boom. Give me a punch and watch me hack it. Give me a beat and I'll show you how to jack it. I give the rich a giant tax loophole. I leave the poor living in a poop hole. At a time when AIDS is in a crisis, I cut health care and I raise prices. Sales tax, snack tax, excise tax, information attack with a newspaper tax. It's the pocketbooks of working families, increased tuition at the university. Someday I'll command all of you. Even your kids are gonna pray to me in school. Soon I'm gonna be the president. You might remember the last one this state sent. California, Uberalis. California, Uberalis. California, Uberalis. California, Uberalis. I'm so proud to know the great communicator. Wanna be known as the great incarcerator. I'll blow environmentalists away. And I'll be the Fuhrer someday. I keep cutting public education. Even though we rank 45th in the nation. I got a plan for the minorities. I send them to the California Youth Authority. From San Francisco Urban Elementary to Pelican Bay State Penitentiary. There they can work for the master race. And always wear a happy face. Close your eyes, it can't happen here. Big brother and his squad car's coming near. Come and join the surf and sun and keep California number one. California. With me, President Pete. California, Uberalis. California, Uber.
de jeunes. Et donc nous revoilà après une petite musique qui était un mix entre, donc, vous l'aurez compris, California Uberless de Dead Kennedys et un groupe de rap, vous l'aurez compris, j'ai pas le nom, je sais pas qui c'est. Et donc on passe à cette troisième partie donc, du débat sur le mouvement de années 70 de la lutte anticarcérale et qui déborde un peu donc, la question juste de la prison en elle-même. Et qui part sur le fait que c'est donc la société qui produit la délinquance et que la société hors de la prison même ou même dans un état un peu de dressage et d'enfermement quotidien et donc leur rencontre avec des luttes un peu transversales, que ce soit les luttes donc avec dans les orphelinats, les rébellions dans les orphelinats, puis dans les hôpitaux psychiatriques et notamment aussi avec un certain mouvement de lutte d'handicapés. Voilà.
Et donc c'est là que très vite le CAP introduit son 12e point dans sa plateforme, qui est l'abolition de la prison. C'est, je pense, cette histoire a précipité cette chose. Et alors donc on est bien dans une contradiction apparente entre l'amélioration d'un côté, la suppression de l'autre, mais on n'est pas dans le même temps. On a les revendications immédiates qui mobilisent et on a une perspective qui est l'abolition. Et je pense que ça aussi, ça a été fondamental. Là aussi, comme la conscience de classe a permis aux gens de s'affirmer. Le point 12, l'abolition de la prison, a permis au CAP d'avancer sans être récupéré. Le CAP entend défendre globalement tous les prisonniers, mais il va se mettre aux côtés de prisonniers qui bougent et qui luttent. C'est pas une avant-garde qui va tirer vers lui. Là aussi, on est dans un rapport de construction ensemble de quelque chose. Le CAP donc ne diffuse pas de mordeur de révolte. C'est aux intéressés à se révolter, parce que le CAP est animé par des sortants de prison, des gens qui sont sortis de prison, sinon ils ne pourraient pas l'animer. Le rôle qui se donne, qui apparaît très vite dans les colonnes du journal, c'est informer, expliquer, transcrire les revendications, sans faire l'écho. Il ne se veut pas du tout représentatif, c'est pas un syndicat. On assiste vraiment à cette rupture importante. Et là, je me réfère à un texte de Foucault, qui préface le livre de Serge Livrosé, De la prison à la révolte, qui sort en 72. Et Foucault fait la préface. Ça annonce ce qui se passe au niveau de la parole. Et qu'est-ce qui se passe de fondamental et qui est une rupture? C'est le renversement du discours dominant de la criminologie. La criminologie, elle individualise, elle sépare, elle psychologise. Et elle évacue les causes économiques et sociales de la délinquance. Et pour le CAP, toute délinquance a une origine politique, économique et sociale. Le CAP explique à partir de ce moment-là, tout prisonnier est politique pour répondre aux revendications de statut politique. Et que la délinquance a deux grandes causes, la prison elle-même, en fabriquant de la récidive, et la société, par ses contradictions et les tensions qui s'opèrent sur les personnes. La prison, pourquoi? Parce que les gens en sortent très démunis, donc ils n'ont pas trop de conditions de survie. Donc et puis en plus, c'est un milieu qui favorise la récidive, et c'est un facteur de déséquilibre psychique et affectif. Donc c'est comme ça que le CAP voit l'impact de la prison. Par rapport à la pauvreté en prison, bon, il y a eu les écrits de Anne-Marie Marchetti, qui est une sociologue qui est décédée, mais qui montre bien que ce sont des gens pauvres qui rentrent en prison et qu'ils en sortent encore plus pauvres. Ensuite, la société. Donc toujours le CAP qui reprend la période de 1939 à 1962. Donc on est au niveau population pénale, on est dans la suite de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des guerres incessantes. La Deuxième Guerre mondiale et puis toutes les guerres coloniales. Et qu'est-ce que c'est que ces guerres? Ils estiment que plusieurs générations ont été profondément marquées par les meurtres, les pillages, les viols, les tortures, tout ce qui est... Alors là, au niveau de la guerre d'Algérie, on le sait quand même, ça a fait des dégâts, quoi. On en parle depuis quelques temps, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Dans les gens du CAP, il y avait des anciens de la guerre d'Algérie. Et même, je pourrais même dire des commandos Delta de l'OAS. Bon, c'est assez marrant. Là, il y a des gens qui suivent des trajectoires qui se transforment. Parce que aller des commandos Delta au CAP, je trouve qu'il y a un certain trajet. Les commandos Delta, c'était les groupes de choc de l'OAS qui assassinaient des gens. Ensuite, ils pensent que dans les causes sociales de la société, il y a la propriété privée, qui est une source de jalousie, de lutte pour l'appropriation de biens, des désirs de possession. Et il y a l'existence du vol à tous les échelons. Donc le vol existe partout. Le salariat, c'est un vol. La consommation, le commerce, bon, tout ça. À chaque fois, il y a des gens qui prélèvent. Donc ça, c'est un vol légal. Bon, ils partent du viol. Ils estiment que le viol, on est au début là aussi, hein, c'est le produit de l'éducation des hommes. Après cette réflexion, on pourra le voir, si vous voulez, s'approfondit. Qu'est-ce que ça veut dire abolir la prison? Donc on repense tout. Et les meurtres, j'estime qu'il y a deux catégories de meurtriers. Il y a le voleur qui ne veut pas, qui peut tuer par panique. Et puis il y a le meurtre passionnel qui renvoie à l'idée de possession. Donc là, il le ramène à la propriété. Et d'une manière générale, les causes de la délinquance et de la criminalité, pour eux, s'appuient sur les inégalités et sur l'exploitation d'une classe par une autre, et sur un fonctionnement autoritaire et répressif, sur la pression qui est mise sur les individus. Donc voilà, ça c'est pour illustrer ce fonctionnement autoritaire et répressif. Ensuite, à partir de ça, l'accusé devient accusateur. Donc si c'est la société qui me produit en tant que délinquant et criminel, à partir de l'analyse que je fais, je renverse à la société en disant ça devient un instrument, au contraire, pour transformer la société. Si on peut voir, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord, la réponse actuelle, c'est on fait une loi, on va criminaliser encore plus. On peut dire au contraire, interrogeons-nous sur qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire autrement. Sur l'augmentation de la délinquance, par exemple, dans les années 60, il y a un truc qui arrive, c'est l'échec. Ben à partir de là, ben, il y a eu des infractions au chèque, il y a eu les chèques sans provision. Donc évidemment, ça augmente. C'est un outil nouveau qui crée une nouvelle délinquance. Les téléphones portables ont créé les vols de portables. Ensuite, l'autre aspect important, et qui pour moi, on va prendre la métaphore du rhizome, en tout cas de quelque chose qui se développe et qui devient transversal au lieu des prisonniers, c'est le cap qui à un moment donné se construit comme le journal de ceux que la société rejette. Et donc, très vite, dès le numéro 3, on voit une rubrique qui apparaît qui est « Autre prison ». Et « Autre prison », ça concerne... Il y a des orphelins qui parlent. Donc on a une lutte qui arrive à ce moment-là, c'est la lutte des orphelins d'Auteuil. Donc c'est un orphelinat à Paris, c'est donc un lieu d'enfermement aussi, et où les orphelins mènent une lutte sur leurs conditions de vie. Donc le cap est à leur côté, diffuse ce qu'ils disent. On retrouve les handicapés très vite. Alors moi, j'ai connu, et j'ai travaillé j'ai eu leurs archives, avec une amie, Elisabeth Horbacher, handicapée méchante. Donc, elle a monté le comité de lutte des handicapés, et elle a écrit un livre, Babette handicapée méchante. Sa lutte rencontre celle des prisonniers. On dit, moi, je suis en prison à perpétuité. Elle était handicapée. Et donc, elle mène des luttes autour du handicap, qui rejoignent aussi. Et elle est présente aussi... On les voit sur les photos du cap dans les diffusions du journal devant Fleury, en train de se faire embarquer par les flics avec ses béquilles. Après, elle devient avocate et elle va mener d'autres luttes à l'intérieur des prétoires. À partir de la situation du handicap, elle rencontre celle des prisonniers. Et les handicapés sont aussi à la manif contre la prison de Mende. Les psychiatrisés, disons. Là aussi, il y a des groupes d'abord de travailleurs sociaux, de médecins. Moi, je parle de l'analyse institutionnelle qui est un de mes courants de recherche. Avant, il y a la pédagogie institutionnelle, il y a la thérapie institutionnelle. Il y a toutes ces luttes qui ont été menées par des professionnels, qui ont renversé les rôles, qui ont élargi le débat. Et on les retrouve évidemment là-dedans. Pendant la guerre, le pouvoir a une telle politique que les fous sont destinés à mourir de faim. On les nourrit plus. À l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il y a énormément de malades, de patients qui meurent. Et en Lozère, donc à l'hôpital Saint-Alban, il y a des psychiatres, des travailleurs qui bossent et qui décident de reposer tout à fait les choses autrement, qui se constituent en collectif. Il n'y a plus les soignants, les soignés, mais il y a un groupe qui décide de survivre et de se démerder autrement. Et à partir de cette réalité, il va naître un courant antipsychiatrique, et en tout cas qu'on appelle la thérapie institutionnelle, et qu'on retrouve aussi, par extension, dans ces luttes. Autour des rôles, hein, et le soignant, le soigné, le prisonnier, bon, on peut revoir les choses. Les lycéens se retrouvent aux côtés dans le CAP, on retrouve des tracts de lycéens. Les lycéens se retrouvent aux côtés d'Action du CAP pour la diffusion du journal. Moi, j'étais au lycée à ce moment-là, je peux dire qu'il y avait un mouvement lycéen qui était fort et qui était assez revendicatif. Moi, c'était un choc dont je ne me suis jamais remis. Et on retrouve aussi les travailleurs immigrés. Donc, toutes ces rubriques apparaissent, autres prisons se retrouvent avec les luttes des prisonniers. Livrosé dit à ce moment-là, le CAP est le journal de ceux qui ne s'expriment jamais. Donc, c'est à partir de ce constat que se constitue quelque chose de plus large, qui interroge la société, non pas lutte principale, lutte de classe, mais on est sur des luttes plus transversales. et qui créent des, à partir de situations qui ont un certain lien, qui mettent les gens en mouvement, qui les mettent ensemble, qui font que ça circule. Et on arrive à des situations, à des dénonciations de situations d'enfermement. Et comme les prisonniers et les handicapés sont exploités par le système, donc Babette a énormément dénoncé les CAT et les lieux d'exploitation, les ateliers protégés et tout ça, c'était une des batailles. Et on retrouve aussi ça dans le CAP. Et leur lutte est commune autour du refus de l'exploitation, le refus de la séquestration, le refus de l'exclusion. On tombe sur une autre personne qui a aussi une trajectoire un peu atypique, qui est Jacques Le Sage-Delaye, qui défend cette transversalité. Et c'est là qu'émerge un mouvement que j'essaye de lancer à ce moment-là, qui s'appelle d'abord la FLAM, Fédération des luttes autonomes marginales, qui très vite échoue, mais qui débouche dans un mouvement qui s'appelle Marge, et qui est consécutif à l'avenue de Marcuse, donc un sociologue ou philosophe américain, qui vient à Paris et qui lui dit que la révolution va partir des marges du système et qui vont faire bouger le centre. Bon, ce sont des mouvements qui ont essayé de se structurer. Autant la rubrique « Autre prison du Cap » et les actions comme ça ont marché, les liens, autant créer un mouvement de toutes pièces comme ça, ça n'a pas marché. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il y a eu des luttes entre des personnalités fortes et que ça n'a pas débouché vraiment, à part Marche qui a continué. Mais la flamme, non. Il y avait aussi les prostituées qui avaient rallié le mouvement à ce moment-là, puisqu'il y a eu la lutte des prostituées dans les années 75, je crois, avec les occupations d'église. Et donc, on retrouve aussi dans le CAP les textes des prostituées. Donc, les fous, les prostituées, les tolards, les handicapés, les gnomes. Là, on a la Cour des miracles qui se constitue en sujet politique. Et c'est assez intéressant dans le fond, comme interrogation du système social dans son ensemble. L'importance du journal, parce que très vite, avec l'échec de la stratégie mouvement de masse, le mouvement se recentre sur le journal. Et l'objectif devient de construire le journal, de le diffuser avec un journal donc qui accueille les textes et tout ça et qui les renvoie sous une certaine forme. Hein. On est dans un rapport dialectique. Alors le premier numéro est tiré à 10 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un journal de tolard, diffusé par les NMPP, donc il est en kiosque. Il est financé par des ventes militantes. Mais donc de plus en plus le mouvement existe par le journal et la conquête des trottoirs de prison centre la lutte là-dessus. Et autour de se faire reconnaître et de se faire connaître. Ils estimaient qu'il y avait 20 000 clients potentiels sur la région parisienne au niveau tolard. Donc l'équilibre financier du journal était là-dessus. Et donc le prix de vente était calculé sur 500 exemplaires. Donc c'est un journal qui marchait. C'est pour ça aussi qu'il a duré. Donc cette bataille pour la conquête de la diffusion a affirmé la primauté du journal et a permis de prendre contact avec les familles. Donc, en plus, cette bataille a été gagnée. Et ça, c'est un des points très importants du CAP. C'était toujours avoir une bataille à mener qui était gagnable. Et essayer de la gagner. Ça aussi, on n'était pas dans des abstractions. Et à part la bataille pour l'abolition de la prison, je dirais, mais les campagnes qu'ils menaient étaient très concrètes. C'était toujours aussi autour de prendre le système sur ses contradictions. Même quand il y a eu l'article D444 du Code de procédure pénale, qui était l'amendement anti-CAP, qui a été pondu par rapport à la diffusion du journal, ils ont quand même continuer la bataille en disant sécurité, où est-ce que ça menace la sécurité? Donc là, c'était impossible de gagner, je pense, parce qu'il y avait trop d'enjeux. Mais ils n'ont pas reculé comme ça, quoi. Et en plus, il y a un ministre qui a trahi sa parole dans l'engagement qu'il avait donné à Foucault, à Clavel et à Mauriac, que le journal pourrait rentrer en prison. En 1975, le journal passe à 50 000 exemplaires, avec des finances très saines. En plus, il y a des apports qualitatifs qui se passent. Il y a eu à un moment donné, il y a eu un hold-up au Figaro. Et il y a un journaliste du Figaro qui est impliqué dans le hold-up en question. Et donc, quand il sort de Tol, ben, il arrive au CAP. Il amène tout son savoir-faire au niveau secrétariat d'action. Et là, on voit la maquette qui change. C'est très, très spectaculaire. Donc là, avec les 50 000 exemplaires, on commence à avoir un vrai journal. Là, il commence à se profiler une tendance à faire un vrai journal commercial. Mais il y a quand même une tendance assez forte qui s'oppose à cette primauté avec peut-être de la pub. Il y a un marché, il pouvait y avoir un marché aussi. Il y a des cantines qui rentrent à ce moment-là en prison après 75, donc pourquoi pas de la pub là-dessus. Le journal reste militant, mais il y a une diffusion en MPP. Et moi, je me souviens très bien dans cette période-là, Je le voyais en kiosque. Hein. Souvent, bon, des kiosquiers pouvaient le cacher, mais il y avait des kiosques où ça apparaissait. Bon, 76, la diffusion redescend à 30 000, mais c'est quand même pas mal. Et 77, bon, on sent que là, le mouvement s'essouffle, on redescend à 15 000. Et puis après, retour à 5 000. Mais c'est quand même des chiffres assez gros, je trouve. Le journal est réalisé par une petite équipe. Le contenu est discuté chaque semaine. Alors, les réunions sont très houleuses. Il y a des personnalités qui s'affrontent. C'est des AG un peu permanentes. Il vient qui a envie d'y aller. Le journal est envoyé systématiquement à tous les gens qui sont attaqués dedans. Donc les gens, ils savent à quoi s'en tenir. Quand il y a un directeur qui est mis en cause, quand il y a un juge qui est mis en cause, il reçoit en priorité le journal. Le journal, donc ça c'est Lapéry qui est directeur de publication qui nous dit ça, que le journal est un moment de la lutte en lui-même, que l'information y arrive, elle débouche éventuellement sur l'action, qui renaît dans le journal sous la forme de nouvelles. Donc l'information déclenche de l'action, qui redéclenche de l'information, etc. On est aussi dans un cycle, dans un milieu quand même qui fonctionne au secret. Moi, je prends l'exemple, je suis écroué en janvier 78, en pleine histoire des luttes contre les QHS. Je ne sais pas un mot de cette lutte des QHS pendant plusieurs mois. Donc voilà. Pourtant, il y avait des gens dans la prison où j'étais qui étaient en grève de la faim et qui étaient également dedans. Donc là-dedans, l'information, dans un milieu autour du secret, ça devient un enjeu et qui lui-même est mobilisateur en soi. Alors, je ne me souviens plus, les animateurs du GIP disaient « l'information est une arme ».
Vous êtes toujours sur Indation 88.4 Radio Galère. Et donc, on va vous passer pour faire une petite pause hein, dans ce donc, long débat, mais quand même bien intéressant, avec le groupe Eyoka, pour après en finir, cette fois-ci en tout cas, avec l'ultime et dernière partie de... Donc du débat qui a été mené par Christophe Soulier, avec donc la fin de l'histoire des CAP et notamment après des questions, et donc une question qui est assez intéressante et surtout dans ce débat par rapport à la question qu'on entend toujours quand on est publiquement présenté comme avec un discours anticarcéral sur le viol. Mais qu'est-ce qu'on fait des violeurs et comment faire les violeurs? Donc justement, lui nous parlera d'une histoire qui s'est passée avec des groupes féministes par rapport à des gens qui étaient enfermés pour viol, qui faisaient de viol. Et donc, je vous laisse écouter, c'est très intéressant. Il nous parlera beaucoup mieux que moi à l'instant maintenant. Là. Et voilà, donc après Eyoka, la dernière partie de ce débat. We'll be right back. toujours sur NDChain, donc c'était le groupe Eyoka, qu'on vous conseille d'écouter ou de réécouter. Voilà. D'ailleurs, on vous repassera sûrement plusieurs morceaux dans les émissions à venir. Et donc, dernière partie de ce montage, donc, je vous le disais juste avant, je vais pas me répéter, hein, mais donc qui parle un peu de la fin du CAP, donc les limites qu'ils ont atteint à la fin des années 70, début 80. Ce qui s'en est suivi au niveau d'autres formes de lutte, parfois plus réformistes et compagnie. Et surtout, le cœur de cette partie, plutôt, que moi je trouve le plus intéressante, qui est sur justement le viol et cette question qu'on a souvent, donc ce que je disais juste avant, par rapport à une lutte anticarcérale. Et les violeurs et les pédophiles, et qu'est-ce que vous en faites? Et ben, où justement, il ne s'agit pas d'apporter une réponse, parce que des réponses, personnellement, j'en ai pas. Et je pense que toute personne qui amène une réponse sûre de lui est un peu sûr de lui, et plutôt un mec à éviter, plutôt un escroc, plutôt un politicien, peut-être même on peut aller jusque là, c'est même sûr. Et en tout cas, des discussions qui sont passées avec des groupes féministes et certaines pistes à élaborer, et surtout certaines pistes à élaborer collectivement, qui fera partie de la construction d'un autre monde.
De Foucault. Pour le livre de Livrosé. Pour Foucault, un prisonnier qui analyse est le sujet de son discours. Et donc, il bouscule la distribution entre la littérature criminelle d'un côté et le discours scientifique de l'autre. Alors, jusque-là, la condition nécessaire à la publication des mémoires d'un criminel, c'est qu'il doit raconter sa vie et se contenter de ça. Sa condamnation à la prison doit apparaître comme une aventure singulière, qui sont des conséquences de la fatalité ou de la démesure. Mais on ne demande pas à un prisonnier, à un ancien prisonnier, d'analyser et de dégager des conclusions politiques. Il doit raconter, il n'a que des souvenirs. Et quand le discours scientifique s'en empare, qu'il représente collectivement en tant que catégorie, là aussi, c'est un regard savant qui se porte sur lui. Le condamné n'existe au pluriel que sous l'effet d'un discours scientifique. Donc là, on a ces deux catégories qui traitent du sujet. Donc l'irruption d'une parole autre de l'infracteur lui-même est vraiment, dans ce système, un bouleversement considérable. Il le dit pour Livrosé, c'est au tout début, après je dis, moi, le cap représente également à la même portée, même plus, parce que c'est une portée collective, on n'est plus dans une seule personne, mais on est dans un groupe qui rencontre d'autres, etc. Et qui laisse une mémoire en plus. Quand le prisonnier tire des conclusions politiques du point de vue de l'infracteur, on est dans une rupture très profonde. Mais très vite, les animateurs du CAP ont constaté que ce n'était pas suffisant de donner la parole aux détenus, mais qu'il fallait que cette parole s'inscrive dans le sens d'une lutte. Parce qu'effectivement, tous ceux qui ont fait de la radio autour de la prison le savent, on ouvre l'antenne, on va avoir des tas de textes. Après, quel objectif qu'on se donne? Dans quoi on les inscrit? C'est une question. Donc c'est la question que s'est posée le CAP. Ils estiment que ne rentreront dans le journal que les textes qui s'inscrivent dans des luttes. Donc là, on est dans un rapport entre le journal et les prisonniers. Je veux dire, on est dans une co-construction de quelque chose ensemble. À partir de ça aussi, il faut que cette parole s'inscrive dans le sens d'une lutte contre la prison qui enferme et contre la justice qui alimente la prison. Parce que le constat très vite, c'est qui est-ce qui remplit les prisons? C'est pas les matons, c'est pas l'administration pénitentiaire, c'est les juges. Et par rapport à une politique qui est menée, une politique pénitentiaire, une politique pénale. Là aussi, la question va se poser et la lutte va se porter là-dessus. À partir de ça, le journal s'affirme comme un contre-pouvoir. Il attaque le système sur ses contradictions. Moi, je donne un exemple. À partir de 1975, le CAP lance une campagne sur le thème « Contrôle des juges aux audiences ». Donc, les militants du CAP, et j'en ai connu qui allaient faire ça, vont assister aux audiences de flagrants délits. À l'époque, on appelait ça les flags, maintenant on dirait comparution immédiate, ou même d'audience correctionnelle, et ils vont noter les juges. Donc, le bulletin, moi j'en ai vu, est organisé avec le nom et la qualité du magistrat, la date précise, la désignation de la chambre. Il y a 6 critères d'évaluation, là on est très moderne, hein, c'est l'évaluation. Donc, il y a le racisme, il y a la phallocratie, il y a le comportement anti-jeune, il y a la partialité, il y a le ton et l'attitude, et il y a le degré de pourriture. voilà ce qui est évalué. Et les copies de ces bulletins sont évidemment adressées au président de la République, ils sont adressés au ministère de la Justice, ils sont adressés à la presse, ils sont adressés au syndicat de la magistrature. Le CAP travaille pas mal avec le syndicat de la magistrature, en tout cas a des liens. Et à l'intéressé lui-même, le juge reçoit donc son bulletin d'évaluation pour lui permettre de s'amender aussi et de se transformer. Donc là aussi, on est dans une optique de transformation. Alors cette aventure collective prend fin en avril 1980 avec la sortie du numéro 67. Là, on peut dire que c'est l'essoufflement quand même, qu'il y a une partie de l'équipe qui est quand même nettement usée. Donc, ça sent dans les textes. Et puis il y en a une autre qui veut continuer. Donc on arrive, les conflits personnels prennent le dessus, les derniers numéros sont éprouvants à lire de ce point de vue, j'ai trouvé. Moi, je les ai vécus comme ça. Et donc l'autodissolution du CAP est prononcée en 80. Et là, il y a des militants qui décident de poursuivre le combat sur le terrain judiciaire et autour d'une revue qui s'appelle le CAP, toujours, mais CAP Nouvelle Série, et autour d'un nouveau mouvement qui s'appelle le Comité d'Action Prison Justice. Donc autour de l'analyse, qui est-ce qui remplit les prisons ? C'est la justice. Donc, si on veut abolir la prison, si on veut se battre la prison, on va faire reculer la prison sur ce terrain-là. Et il se crée un réseau auquel j'ai appartenu, qui est le réseau Défense Libre, qui se constitue là-dessus et qui amène à lui des luttes plus restreintes, mais qui ont marqué. Il y a eu l'affaire du Corral, un lieu de vie où un des animateurs était accusé de pédophilie. Il y a eu... les insoumis, il y avait encore le service militaire, donc il y avait ceux qui s'insoumettaient. Il y a eu les squats. On a beaucoup travaillé avec les occupants rénovateurs du 19e arrondissement. Et donc là, il y a eu des résultats très concrets. Là aussi, toute la collection du journal relate les différents trucs, à partir de cas beaucoup plus individuels, mais qui sont interrogés et qui interrogent le système. Et avec l'optique de faire sortir des gens de prison par le biais de la procédure et du combat judiciaire, donc au niveau du dossier. Donc pour moi, évidemment, tout ce qu'a agité le CAP dans ces années-là sont toujours d'actualité. Je pense qu'il y a une réflexion très forte qui a été posée à ce moment-là, qui part des intéressés eux-mêmes, qui rencontre d'autres raisons. Moi, il y a un magistrat qui a beaucoup travaillé avec le CAP, qui était juge d'application des peines à Poissy, et qui donnait des permissions de sortir à des prisonniers pour aller aux réunions du CAP. Donc voilà, le CAP a été capable aussi d'intégrer des gens comme ça et de travailler avec eux. Et ça produit vraiment une réflexion. Il y a aussi des visiteurs avec qui ils ont pu travailler. Il y a beaucoup de gens, des travailleurs sociaux, moi j'en ai rencontré aussi, qui se sont retrouvés dans cette réflexion. Et qui ont amené aussi leurs interrogations, leurs problèmes. Et donc, je pense que, le livre est introuvable, mais enfin, je pense que c'est intéressant de se replonger dans cette histoire, ou d'aller voir à partir d'archives, ou je sais pas, en tout cas, trouver un moyen. Mais on y trouve quand même des points dans le discours actuel qui me hérissent, c'est quand même des contrepoints. Enfin, on est dans un autre chose. Et c'est porté par les intéressés.
Moi, j'avais bien envie de te poser une question parce que je sais qu'il y a une partie dans ton bouquin qui est assez détaillée et intéressante, parce que souvent, la question du viol légitime l'existence même de la prison. Ouais. Et justement, le CAP avait en tous les cas tenté de réfléchir dans ses colonnes et à partir des prisonniers eux-mêmes sur ces questions-là.
Bon, ce qui s'est passé par rapport au viol, et c'est vrai que ça, là aussi c'était une question très intéressante parce que ça a permis d'approfondir la question de l'abolition de la prison. Là, le viol, c'est difficile à dire, c'est un acte d'oppression, en général je pense d'un homme sur une femme. On arrive au mouvement féministe, alors donc jusque-là c'était plutôt nié par l'appareil judiciaire et la police. C'est-à-dire que une femme victime d'un viol passait pour responsable de son viol. La femme était renvoyée à une culpabilité. Les mouvements féministes, toujours issus d'après 68, ont posé la question du viol du côté de la reconnaissance de l'acte et de la femme victime et non pas responsable. Donc les mouvements féministes l'ont traduit par une revendication de criminalisation du viol. Donc elles ont demandé que ce soit l'appareil judiciaire qui traite ce problème et qu'il y ait des peines lourdes, comme reconnaissent que ce soit les peines lourdes qui reconnaissent le fait de ce que signifie cet acte. Évidemment, ça, cette campagne, on la trouve à partir de des années 70 aussi, un peu dans la même période. Et donc ça télescope le discours du CAP là-dessus, puisque évidemment que le CAP ne va pas défendre le viol comme une réponse à des conditions économiques et sociales, je veux dire, c'est évident. Donc la question s'est posée avec des textes, et de 73 à 79, on trouve un ensemble de textes à partir desquels j'ai fait mon chapitre. Là. On voit l'évolution du débat, les réflexions. Il est mené essentiellement par des femmes du CAP. Certaines sont en prison, d'autres sont dehors. Et elles construisent des textes, elles se situent par rapport à la campagne du mouvement féministe, où évidemment qu'elles dénoncent le viol comme un acte d'oppression, mais elles estiment que l'appareil judiciaire n'est pas, la réponse n'est pas en criminalisant. Alors, bon, elles pensent que l'exemplarité de la peine, ça marche pas, et que c'est un problème beaucoup plus profond, qui touche des questions d'éducation, qui touche... Mais il y a cette question quand même qui est qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? Et là, il y a des réponses qui sont données à partir d'expériences américaines. Il y a une militante du CAP qui a vécu aux États-Unis et qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est militante féministe elle-même, et qui écrit, qui relate toutes ces expériences qui ont été menées dans les prisons américaines, où il y a des groupes de gens qui avaient été condamnés pour viol, qui se constituent en groupe de prisonniers contre le viol, et il y a des militants féministes qui vont les rencontrer. Et c'est des groupes où on discute pour essayer de dépasser la situation. Et alors donc, elles citent des témoignages de prisonniers sur leur évolution dans la représentation même des situations. Elles pensent que de toute façon, la justice est mal placée pour ce problème, parce que de toute façon la justice défend un système qui est phallocratique et sexiste, et elle défend le système des inégalités. Bon, il y a toute l'analyse aussi du système judiciaire qui, à leurs yeux, disqualifie la justice en tant que garant de la justice par rapport aux femmes. Donc là, mais il y a quand même des femmes partisanes de la criminalisation qui s'expriment aussi dans la colonne du CAP. C'est un débat. Et moi, je pense que c'est aussi un des éléments importants du journal. C'est d'avoir affronté cette situation, de l'avoir assumée et d'avoir ouvert le débat là-dessus, parce qu'effectivement, ça m'était plutôt mal à l'aise, quoi. Donc j'en ai fait tout un chapitre, parce que ça me semblait fondamental. Il y avait la question du bouc émissaire qui était sous-jacente aussi. Alors, il y a un système qui est phallocratique, qui est sexiste. Ils vont développer les causes, hein. On prend l'armée. Bon, il y a eu les guerres coloniales, il y a eu les viols en Algérie, par exemple. Moi, j'ai un copain qui a fait son service militaire à Brive, en Corrèze. Il a été réformé au bout de 3 mois, mais il a quand même subi 3 mois. Il me racontait des trucs. Pour les mettre en forme, le matin, un adjudant criait « Les fusils, c'est comme les femmes, ça doit se mettre au pied, quoi. » Bon, voilà le genre de trucs qui étaient dit dans des casernes au début des années 60, en 75-76. Donc, la justice, l'armée, la police, je veux dire, voilà, on peut interroger ces institutions qui ne sont pas forcément les mieux placées. Et donc, c'est un travail sûrement en profondeur, c'est un travail ingrat, c'est sûrement bon. Et la question peut se poser, moi j'ai vu dans le livre de Catherine Baker sur la punition, qui prend les pistes abolitionnistes et qui prend l'exemple, bon, c'est aussi une piste de réflexion sur l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé après la fin de l'apartheid. Et Desmond Tutu, un évêque, a mis en place des dispositifs où les tortionnaires rencontraient leurs victimes, etc. Bon. On est dans une situation, bon, au Rwanda, ils ont essayé, il y a eu des trucs, mais bon, ils veulent pas trop ouvrir non plus, parce que c'est comme en France, après 44-45, on n'a pas voulu non plus aller trop loin. Mais ce sont des dispositifs qui peuvent voir le jour dans ce genre de choses. Il y a la question de l'Argentine et des disparitions aussi. Mais pourquoi ne pas l'étendre aussi à d'autres, ce genre de dispositifs de discussions, de rencontres, ce sont des pistes. Et je pense à nous tous de construire les alternatives et la manière d'imaginer autre chose. Moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Et le CAP non plus. Mais il y a des questions. Et imaginez simplement une société sans prison. Qu'est-ce que ça signifie pour justement tous ces problèmes qui se posent, que la prison cache, évacue et diffère, parce que, rassurez-vous, un prisonnier, ça finit toujours par sortir. À moins qu'on le bute, mais bon, il n'en sort sûrement pas meilleur, de ce point de vue. Donc la prison est un échec, si on prend le taux de récidive. Et c'est vrai que On a un président qui est si soucieux d'efficacité que c'est étonnant qu'il supprime pas une institution qui a autant d'échecs. C'est vrai. Mais peut-être que l'échec fait partie de sa mission. C'est l'autre interrogation qui était posée par Foucault. Que l'échec est peut-être la mission de la prison. Donc de créer de la récidive, voilà, qui alimente la prison et qui crée un milieu en plus contrôlable éventuellement, fragile, utilisable. Ça, c'est l'hypothèse de Foucault. Parce qu'il dit, bon, vous savez que la prison n'a pas toujours existé, que ça représente une rupture révolutionnaire au moment de la Révolution. Et que avant c'est plutôt l'arbitraire, les lettres de cachet, et que tout d'un coup on va dire on construit des lieux éducatifs où les gens vont être réinsérés dans un système en étant meilleurs. Donc c'est un lieu éducatif. La prison très vite, bon, Foucault dit, se sont rendus compte très 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 vite que c'était pas ça, que ça marchait pas. Ils l'ont gardé. Et donc voilà, et donc du coup interrogation. Après c'est sûr que la prison fait partie du dispositif de mise au travail des gens. C'est-à-dire qu'elle se construit à ce moment-là avec la psychiatrie, avec l'école. Donc on est dans ce grand mouvement de cadrage, d'institutionnalisation autour de cette mise en mouvement de la société, de ce qu'on appelle le capitalisme industriel. Et donc les lois sur l'école, c'est 1881, mais enfin le premier système d'école publique, c'est quand même 1830 et quelques, c'est Guizot. La psychiatrie, c'est à ce moment-là autour de la norme, entre le pathologique et le normal. Donc là, je vous renvoie à Canguilhem, c'est très très intéressant à lire. Et puis la prison, donc il y a les gens, il y a les pauvres qui doivent travailler, il y a ceux qui sont dispensés ou qui travaillent autrement parce qu'ils sont reconnus barges, donc c'est la psychiatrie, et ceux qui veulent pas travailler mais qui pourraient, donc on les met en prison pour leur redonner le sens des valeurs. Donc c'est à peu près autour de ça qu'on recadre et qu'on reconfigure la société. Donc là, on est dans quelque chose de très profond qui se passe, et avec des rationalités qui s'imposent, avec le concept de population qui devient central, donc on forme une bonne population, le concept, le pastoralisme qui est repris, qui vient des curés, là, le berger avec les moutons, donc on est devant une population qui va être conforme et qu'on répare ou qu'on amende ou qu'on reconstruit, qu'on reconfigure. Mais ça, Foucault l'a établi à partir des textes émanant de l'appareil d'État lui-même, hein, tout ça. On n'est pas dans une spéculation. Il dit que c'est très très explicite. Mais là, je vous renvoie à Surveiller et punir, hein, qui est un ouvrage qui est quand même qui est fabuleux, avec la langue de Foucault en plus. Mais donc l'échec de la prison est sûrement vu comme étant sa finalité, pour répondre, je pense.
Donc voilà, c'était ce fameux débat par rapport aux histoires de l'abolition de la prison dans les années 70 et par rapport à toutes les questions qui se sont posées à ce moment-là et qu'on se pose encore aujourd'hui sur qu'est-ce que ça veut dire que lutter contre la prison, être abolitionniste ou anticarcéral, toujours avoir en tout cas la prison comme un élément d'une société entière et non pas comme un élément à part. Voilà, et sinon, apparemment, j'ai une demande expressive, donc le mot beaucoup... phallocratique qui revient très souvent dans ce débat. Je vais être très bref. Phallus, pénis, crassi, pouvoir. Donc le pouvoir du pénis, donc vous l'aurez compris, de l'homme sur la femme. Voilà. Et ben on va s'arrêter là. Et avec sur Undation, on va se retrouver la semaine prochaine avec une émission un peu plus légère, avec beaucoup de musique et notamment de beaucoup de textes qui nous parlent et qui nous parlent en ce moment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, de 20h à... jusqu'à ce que ça se termine. Et comme c'était une émission sur l'anticarcéral, bien sûr, salutations à tous les enfermés, à tous les emmurés vivants. Voilà. Au réveil, la prison me saute à la gorge, comme un animal à l'affût de l'ultime cauchemar. Le premier sens en éveil m'avertit de sa présence tapie. Un coin de mur surgissant de l'aube, l'odeur du désinfectant, les ablutions diverses des congénères, l'effleurement de la couverture administrative et l'écœurement indicible. Elle me pénètre d'un trait. Elle me force avec la goulée d'air inspirée au bord de cette noyade lefto. Sa langue enfoncée dans la bouche, elle me baisse de sa mort journalière. Sans fleurs ni couronne au tréfonds des caveaux de béton, du « je ne le ferai plus » et des lâchetés misérables. souveraine tyrannique, la mal à mort de la lèpre moderne et carcérale est là et déjà en moi. Et pas moyen de lui échapper. Jusqu'au plus lointain du dernier exil, j'éprouverai cette nausée. On ne s'habitue jamais à la prison. Jean-Marc Rouillant, Jeuel et Matin.